Au micro, Jacqueline Baudrier. Le prétexte de ces manifestations, vous le connaissez, ce sont les récentes mesures prises par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Il avait été conseillé aux musulmans algériens de ne pas sortir entre 20h30 et 5h30 du matin pour éviter de nouveaux attentats contre les gardiens de la paix et aussi pour que les travailleurs musulmans ne soient pas confondus avec les terroristes. Ces décisions, diverses organisations politiques et syndicales les condamnent, Force ouvrière de la région parisienne, le PSU, la Ligue contre le racisme et le mouvement de la paix. Aux arguments de ces organisations, M. Roger Frey, cette nuit, devant les députés, a opposé les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises et surtout, il les a justifiées par leur efficacité, Jean-Pierre Elkabbach.
En effet, du 29 août au 7 octobre dernier, 102 attentats avaient fait 99 victimes, dont 52 tués musulmans et 11 morts parmi le service d'ordre. Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis l'application de ces mesures, il n'y a eu qu'un seul attentat faisant un blessé. Le FLN essaie donc maintenant par tous les moyens d'obtenir la suppression des décisions gouvernementales qui gênent son action terroriste. On ne sait pas encore pendant combien de temps ces mesures resteront maintenues. Elles seront en tout cas appliquées jusqu'à ce qu'on puisse être assuré que le retour à la normale n'entraînera pas des risques pour des vies humaines. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs M. Roger Frey. D'autre part, on a rappelé à Paris 6 compagnies de CRS et 4 escadrons de gendarmerie pour bloquer d'éventuelles manifestations musulmanes. La police vérifie soigneusement en ce moment l'identité de chacun de ces 9260 Algériens, vous l'avez dit tout à l'heure, Jacqueline Baudrier. 6600 d'entre eux sont au Palais des Sports, de la Porte de Versailles, 1800 au stade de Courbertin et 660 à Vincennes. Un premier contingent de 500 hommes a pris l'avion ce matin à Orly pour Constantine. Un deuxième contingent, qui groupe 1000 Algériens, sera acheminé demain vendredi par bateau à partir de Marseille. En Algérie, ils seront tous assignés dans leur commune d'origine.
France Inter.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert. Couvre-feu.
Flight number 2, arriving from New York.
On disait juste là, c'était... c'est quoi en fait? C'est un préfabriqué, il y a une affiche de Coluche avec oui. Le Resto du Cœur. Ça a été fait quand ça?
Il y a une dizaine d'années à peu près.
Pour répondre à quel besoin?
Au besoin des parents... des enfants de l'école que vous venez de visiter. C'est-à-dire que, comme vous expliquez, il y a une misère sociale importante. Au fil des années et du renouvellement des locataires, les organismes HLM ont concentré la misère. Et nous, je dirais que c'est une concentration de la misère et c'est une usine à recycler la misère. Il y a un turnover important. Quand ils ont un emploi, ils s'en vont de la Grande Borne. Ils vont ailleurs. Et donc, c'est une machine à recycler la misère, quoi. Et à chaque fois qu'on recycle la misère, il y en a de plus en plus, et c'est de plus en plus important. Et donc, c'est pour ça que le préfabriqué que vous voyez là, où il y a les Restos du Cœur, tous les ans, et ben, il se remplit de plus en plus. Toutes les semaines, on va chercher des denrées. Il y a 5 ans, on partait avec un petit camion. Maintenant, à la limite, toutes les semaines, on ramène un SMI ici, quoi. On ramène un SMI remorque de bouffe.
C'est un manque de respect, une agression.
Dominique de Villepin a annoncé une série de mesures en faveur des banlieues déshéritées, la création d'une agence de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, l'instauration de 15 zones franches supplémentaires et de nouveaux contrats d'accompagnement pour l'emploi réservé à ces quartiers.
Oui, ben on voit ce que ça donne ici.
J'ai décidé de créer 5000 postes d'assistants pédagogiques dans les villes de quartiers sensibles et ceux...
Michel, il s'appelle celui qui parle, il est directeur des services techniques à la municipalité de Grigny. Grigny, tout près de Paris. Grigny, un nom qui a retenti en France, mais à travers le monde aussi. Pourquoi? Parce que ça a pété à Grigny, vous le savez. Et aussi pour une autre raison, c'est que la municipalité de Grigny a décidé d'organiser le soir des veilles citoyennes ou des rondes citoyennes. De quoi s'agit-il? De demander aux employés municipaux, aux gens qui travaillent dans la ville, à des bénévoles, à qui voudra, de se mettre là où il y a des risques, c'est-à-dire... dans les équipements publics, écoles, biens publics, centres sociaux, etc., pour, au cas où il y aurait des violences, eh bien essayer de désamorcer et de discuter éventuellement. C'est avec ceux qui font ces rondes et ceux qui font ces veilles qu'on va passer cette heure de là-bas si j'y suis avec Olivia Gesbert. Pourquoi donc? Pour essayer de piger, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de sortir de cette idée que ces violences n'ont pas de cause. Bien sûr que ces violences ont des causes, même si c'est difficile, il ne s'agit pas d'excuser, c'est pas facile à comprendre, même si c'est à peu près le même scénario qui se reproduit depuis maintenant 25 ans au moins. Et puis on rencontrera, si on a le temps, Laurent Mukeli, qui est sociologue, on s'était promis... dans cette affaire, de ne pas commencer par les sociologues, mais Laurent Mukeli connaît bien depuis longtemps ses terrains, ses violences aussi, qu'il suit attentivement. Et il a publié hier, je crois, un article dans le quotidien Libération où il évoque Gavroche. Et il dit, il s'en fallait de peu que Gavroche ne soit qu'un délinquant. Et il dit aussi les Black Panthers, vous vous souvenez, les Black Panthers, ce qu'on faisait passer pour des terroristes, n'étaient pas seulement des terroristes, ils avaient quelque chose à dire sur la société américaine à l'époque. Que veulent dire ces violences, ces jeunes violents, que disent-ils sur eux-mêmes et sur nous tous? Après tout, nous sommes les mêmes, on vient de nous le dire encore, les mêmes enfants de la même République. C'est jusqu'à 18h. Là-bas, si j'y suis, couvre-feu.
Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, je te voudrais tous en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Et puis d'abord, bon nom, situation de famille et tout. Allez, hop, déballez.
Flash, spécial, filmé, purée des complants. Crash que le présentateur dénombre sur tous les postes. Les news propagent en trombe. Toute la terre tremble quand deux tours tombent. Spin doctor, ses conseillers en com cogite. Salle de presse, la foule de médias s'agite. Discours truffé de mots-clés qui régurgitent. La peur ancrée, leur drapeau prend les cœurs pour gîte. Qui se fabrique, même l'angoisse du public bénéfique pour les auteurs. Les groupes pharmaceutiques, l'art ne se faire passer pour les souffrants d'histoire et s'offre un droit de riposte couvert d'espoir. Juste revanche pour moutons sous hypnose, nourris aux conséquences, bien à l'écart des causes. On se coupe des armes, la guerre est médiatique. Regarde qui bombarde en passant pour les champions d'éthique.
Dans la mouvance de ce qui sera la présidence, siffle un écho, ce qu'on pense n'est écho de jouvence. Alors je sais pas, ça prête large, travaux promotionnels. Quand le peuple fait la pince, y'a rien de proportionnel. On rajoute du personnel, pour quelle sécurité? Ça peut peut-être nourrir ceux qui n'ont pas encore mangé. Déranger l'audimat rangé sur une montagne d'infos. C'est escalade il y a, y'a aussi au défaut. Un monde de fous, un état flou qui nous gouverne. La presse renfloue l'histoire sur d'autres lanternes. Je te rends terme. Si tu crois cerner ce qu'on te raconte en parlant d'insécurité, tout le monde y trouve son compte.
En parlant d'insécurité,
tout le monde y trouve son compte.
Tout le monde.
En parlant d'insécurité,
tout le monde y trouve son compte.
Tout le monde.
C'est une démarche citoyenne. On peut pas. Enfin, moi, je peux pas accepter que les écoles brûlent, que les centres culturels, que les centres sociaux brûlent. C'est une démarche citoyenne, c'est tout. Voilà.
Et que vous avez décidé d'être là, vous pensez que vous pouviez l'empêcher si jamais? Trois petits points.
Depuis que ce dispositif a été mis en place, il ne s'est rien. Alors, on va croiser les doigts, mais il ne s'est rien passé. Donc voilà. On est là pour nos élèves parce que. Ils ont besoin de l'école. Eux plus que les autres, ils ont besoin de l'école. Et on est là pour eux.
Elle s'appelle Evelyne Lebriand, c'est la directrice de l'école maternelle du Minotaure ou du Centaure, on ne sait plus très bien parce qu'il faisait nuit au cours de dans ce reportage avant-hier, où on est avec la municipalité de Grigny. On a fait le tour de ces veilleurs, c'est-à-dire des employés communaux, des gens de la ville, la directrice de l'école ou des citoyens divers et variés, bénévoles ou pas, qui se sont mis en poste dans les lieux milieu sensible. Vous savez que ça a quand même pas mal pété à Grigny. Il y a une école maternelle qui a été brûlée. Il y a eu des affrontements plutôt pas très tendres entre des jeunes et les forces de l'ordre, comme on dit. Et il y a deux CRS qui ont été blessés. Enfin, ça a été quand même assez chaud. Voilà. Et pourquoi la municipalité a pris ces mesures très populaires, extraordinaires. Il y a des télévisions du monde entier qui sont venues filmer, même des télévisions japonaises qui sont venues filmer ces rondes et ces veilles. Et si bien que le maire Claude Vasquez était tout étonné, tout éberlué, qu'on s'intéresse à ce point à une mesure qui lui semblait toute naturelle. Alors, il y a toute une effervescence à travers la ville. La mairie reste allumée toute la nuit avec une partie du personnel qui est là, qui veille, qui veille au grain aussi, bien évidemment. Et ça va continuer. Bon, peut-être que les choses sont en train de se calmer, mais il n'y a aucune certitude. Donc là, on est dans cette école maternelle où, évidemment, c'est quelque chose de difficile pour des enseignants de voir que leur école a... Une école a été brûlée et de penser que c'est probablement les enfants qui sont passés dans cette école qui ont fait le coup, même si ça n'est évidemment pas sûr du tout.
Moi, je pense qu'il y a des gamins qui sont qui ont beaucoup de rancœur à l'égard de l'école parce que l'école les a laissés sur le bord de la route. Alors, je t'en excuse pas, hein. Moi, je n'excuse pas leur comportement. Mais je pense que l'école laisse trop de gamins sur le bord de la route. Et que l'école, quelque part, elle a failli à sa mission, un peu, je pense. Et voilà, ça peut être aussi une des causes. Nous, on a des gamins, là, ils viennent à l'école en transport en commun, en bus, parce que les parents ont été expulsés. Et donc, ils sont dans un hôtel pendant 3 jours, ils vont dans un autre hôtel. Et les parents font quand même l'effort de venir les amener à l'école, tous les jours.
On a peu d'absence. Hein?
Dans l'école, il y a environ 90% des familles qui sont non classées dans les familles, les catégories socio-professionnelles défavorisées. Il y a très peu d'enfants dont les deux parents travaillent. Et il y a des enfants dont les deux parents ne travaillent pas. Moi, quand je suis arrivée dans cette école en 78, il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de famille monoparentale. Il y avait pas, l'école n'avait pas du tout le même profil. Il y avait une mixité sociale qui n'existe absolument plus.
Aujourd'hui, dans ce qu'on appelle l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, il n'y a que l'aspect urbain. On a zappé totalement l'aspect social et économique. Ce qui fait que, là aussi, on peut faire référence à 30 ans d'aménagement du territoire. On sait très bien que dans les quartiers en difficulté, c'est pas parce que vous abattez 3 tours et que vous mettez 3 arbres à la place qu'on règle le problème. Si on règle pas le problème de l'emploi, si on règle pas le problème de l'école, si on règle pas le problème du logement, on n'a rien réglé.
Mais il n'y a pas une ville dans le département qui cumule les difficultés de Grigny. Il n'y a pas une ville qui a tous ses indicateurs dans le rouge comme Grigny. Le nerf de la guerre, il est là. Une question de moyens.
Donc cette colère, elle est légitime. Ce qui se passe en ce moment, c'est légitime.
Là, vous faites un raccourci, là. Hein. Ce qui se passe, ça peut provoquer, là. Hein. Ce qui se passe en ce moment n'est pas légitime. Cette colère est légitime. Leur façon de faire entendre leur colère n'est pas tolérable. C'est clair. Comment ils devraient faire? C'est ceux qui sont en âge de voter devraient déjà s'inscrire sur des listes électorales et voter. Ici, les gens sont très loin de la politique. On pourra en discuter souvent avec les mamans. Ils sont loin de ça. C'est pas leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est de savoir exactement manger tous les jours. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Si je paye pas mon loyer, je vais être expulsée, etc., etc. Ils ont besoin. C'est des gens qui soient présents, qui soient là et qui essayent de répondre à leurs problèmes, de répondre à leurs problèmes du quotidien. En tout cas, ils ont à juste titre le sentiment d'être des exclus, des abandonnés, des laissés pour compte.
Ils ont une conscience politique. Au référendum, ils ont voté à 88% contre le référendum de... Hein? Donc ils ont quand même une base de conscience politique.
Ça, deux, ouvre les yeux. Trois, v'là comme Ahmed. Secrète, c'est pourquoi mon vieux. De banlieue, province et Paris. Quartier pourri, décide. Champs de vision rétrécis. J'ai plus envie d'être ici. Qui soit vois, c'est partout pareil. En France, en France, y'a plus de pilotes dans l'appareil. J'ai beau essayer, mettre le réveil à 7h, quitter mon secteur, voir ailleurs, plus loin, mais y'a pas moyen, je ne vois rien, ou vraiment pas grand chose. L'écart se creuse et dis-moi ce qu'on nous propose. Mourir d'une overdose, finir en tôle, ce n'est pas pour moi. J'ai le choix des armes et ce n'est pas une fin comme ça que je vois. Discrète attitude, on a des valeurs, un code de l'honneur, nique le bruit et l'odeur, FN et affiche couleur, politique pauvre et menteur, télé que pas la couleur. Ce n'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. Pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, c'est peut-être ça qui nous pousse. Et pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, celle qui nous fait fort à tous. C'est pas ici que mon avenir, je vois meilleur. La peur du lendemain, rester debout, tenir jusqu'au bout de la course.
Donc on va au gymnase du Méridien, qui est donc un gymnase de quartier qui est normalement ouvert tous les jours jusqu'à minuit pour accueillir les jeunes du quartier.
En arrivant dans la voiture, on met France Info et on entend les mots racaille, karcher. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce langage-là, de cette sémantique-là ?
Je pense que c'est pas adapté à des quartiers comme les nôtres. Et c'est pour ça que les jeunes y réagissent, parce que sur un quartier comme la Grande Bande, 3800 logements, une ville de 12 000 habitants à peu près, allez, on va dire, il y a 50 jeunes qui foutent entre guillemets un peu le bordel. En dehors de ces 50 jeunes, en grande majorité, les autres, ils veulent s'en sortir, quoi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez donc des employés municipaux et des gens qui sont membres d'associations, c'est ça ?
Non, il n'y a que des...
Que des municipaux.
Gardiens et médiateurs.
Il n'y a que des hommes, hein, cette fois, hein, contrairement à tout à l'heure. Vous êtes quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grands bonhommes. Pourquoi ?
On veut essayer de sauver... ce gymnase qui part en fumée. Voilà. Moi, si vous voulez, je m'occupe de réunions publiques sur la ville. C'est une sorte on fait des réunions de concertation avec la population pour savoir leur malaise, leur désir.
Ici, à Grigny, il y a eu des écoles qui ont été brûlées. Les jeunes, ils comprennent votre démarche là, de comité citoyen, de veille citoyenne, où ils vous voient un peu comme des hackies ou des jaunes, des vendus, des...
Ça, je pense qu'il faudrait leur poser la question. Je pense que je pense qu'ils nous voient comme des vendus, parce que c'est clair, si on les empêche de cramer telle chose qu'ils veulent faire, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas de leur côté. Là, on n'est pas de leur côté. Oui, on peut être un peu comme des traîtres.
Malaise, hein, grand malaise hein, dans ces quartiers, dans ces villes, on est à Grigny, malaise bien évidemment, entre ces éducateurs, ces employés du centre sociaux, enseignants, etc., qui savent bien, eux, que les leçons qu'ils donnent, les leçons de morale qu'ils donnent, etc., c'est un peu du pipeau, parce que, leur pouvoir est limité, leur bonne volonté est indéniable, mais leur pouvoir est limité, et localement, on ne peut pas grand-chose, il y a quand même un sacré sentiment d'impuissance. Souvenez-vous, les ZEP, souvenez-vous de Love, vous souvenez de ce que c'était ? C'était la loi d'orientation pour la ville, ZFU, zone franche urbaine, maintenant c'est ZUS. Voilà, tout derrière tous ces sigles, ces plans, ces promesses, ces grands effets d'annonce et ces budgets dont on ne connaît pas forcément les effets ni les bilans. On répète toujours la même chose depuis, non pas seulement comme ce document l'indiquait en début d'heure, depuis le 17 octobre 61, depuis les couvre-feux, mais depuis 25 ans, c'est toujours les mêmes thèmes, l'emploi, le logement, l'éducation, les contacts avec les forces de l'ordre, etc. tous ces thèmes-là reviennent, si bien qu'il arrive qu'effectivement que les éducateurs éprouvent une certaine lassitude.
Toi, t'as aussi choisi de faire ce soir ces comités de veille citoyenne ou t'es juste là pour jouer au basket ?
Comme en mairie, on avait cette volonté d'investir les employés de la ville. Donc moi, je me suis proposé parce que je suis ancien habitant, comme je vous ai dit, de la grande bande. Et donc je connais pas mal les jeunes ici. Donc s'il y a un problème, je peux discuter avec eux. Donc ils me connaissent, je les connais. Donc le dialogue sera plus facile. Je suis agent d'animation en fait. Moi, ça m'a rappelé un peu des souvenirs d'il y a 10 ans. C'est un retour en arrière, en fait. Ça me rappelle un peu les anciennes époques ici à Grigny, à la Grande Borne, où ça pétait un peu. Les éléments déclencheurs, c'est la mort de jeunes dus à des mauvaises interpellations ou choses comme ça avec la police. Mais cette année, en ce moment, c'est plus par rapport à un ras-le-bol, je pense.
Vous pouvez venir, hein? Au lieu de rigoler, vous pouvez venir discuter. Ah non, parce qu'il y en a toujours qui font les fiers derrière avec le ballon.
Si tu veux t'incruster, tu viens.
Moi, je m'appelle Paresse.
Moi, je pense que c'est un mouvement de solidarité hein, auprès des jeunes. Parce qu'ils vivent la même chose, que ce soit à Clichy ou ici à la Grande Borne.
C'est organisé tout ça ou personne ne contrôle rien?
Rien n'est organisé. C'est les gens, voilà, ils viennent et tout le monde arrive et voilà, sérieusement.
Ils ont à peine 16 ans, 17 ans, c'est pas à cet âge-là qu'on va établir des plans de...
Il y a quelque chose, quoi. On sait pas trop vers quoi orienter sa colère, mais il y a quand même des mots qui sont injustice, demande de dignité, demande d'égalité, demande de respect.
La reconnaissance, parce que c'est un mot qui revient souvent, c'est l'intégration.
Moi, je suis né ici, et voilà, je suis français. Tout simplement, j'ai ma carte d'identité, mon passeport rouge, voilà, je suis né ici, j'étais à l'école ici, voilà, je vois pas où je dois m'intégrer, je suis déjà français. Je vois pas pourquoi je continuerai à vouloir m'intégrer. On va dire, c'est pour des immigrés. On va dire, c'est des personnes qui viennent d'arriver d'un autre pays, là, eux, ils doivent s'intégrer, mais nous, voilà. Moi, je l'ai vécu. Maintenant, surtout en ce moment, parce que je recherche un autre emploi. Ah, moi, je cherche dans tout, exactement, j'ai pas un truc précis. Moi, c'est juste pour travailler, pour pas rester posé. C'est ça. Sinon, ma formation, je suis métallier. Pose des CV, voilà, jamais de réponse. C'est rare, les réponses.
Il y a quoi pour bosser dans le coin, là, autour de Grigny?
Il y a pas mal de zones industrielles.
On a la zone franche, où il y a beaucoup d'usines, comme Coca-Cola, et il y a plusieurs trucs, quand même. C'est 30% de la population de Grigny, normalement, qui devrait travailler à la zone, mais voilà, nous, on voit pas les 30%. Quand je vais dans la zone, je vois que des plaques 92, 77, voilà, c'est...
Ici, c'est 91?
Ouais, ici, c'est 91. Alors que c'est une zone franche, normalement, voilà.
Bon, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas parce que, voilà, il y a ces échauffourées qu'on doit commencer à dire, voilà, c'est quoi le problème? Fallait essayer de chercher le problème avant. Les jeunes, pour s'exprimer, c'est leur seul moyen d'expression. Sinon, un jeune qui vient parler comme ça ouvertement, on va pas l'écouter. La parole n'est pas du tout crédible.
Les déclarations qu'a eu Sarkozy, justement, dans les derniers temps, ça a fait partie? Ça a envenimé les choses ou c'est rien? Ça, c'est la cerise sur le gâteau?
Dans tant de doigts, on va nettoyer ça au Karcher. Ça fait mal. Il y en a, ils prennent... Ça va directement, on va dire, à leur orgueil, on va dire comme ça. Il y en a, ils ne supportent pas.
C'est de la provocation, ça c'est sûr.
Parce qu'il va avoir les élections aussi.
Tout simplement. Il veut gagner des voix. C'est ça.
Et tout ce qui se passe là en ce moment, c'est bon pour lui?
D'un côté, ouais, c'est bon pour lui. Pour les gens qui sont, voilà, qui sont un peu racistes. Non, sérieusement.
C'est bon aussi pour la paix.
Parce qu'il était là justement pour rétablir le calme, même si les cités en général étaient calmes en ce moment. Que ce soit à Grigny ou ailleurs, c'était assez calme. Mais depuis son arrivée, par rapport aux multiplications de ses paroles, de ce qu'il disait, ce qu'il voulait mettre en place, donc il y avait un dialogue qui commençait à s'instaurer. Les jeunes voyaient autrement les policiers. Ça a été complètement annulé. Bon, ça, c'est peut-être un truc qui a fait que ça a pété, quoi.
Et peut-être qu'il met le feu, puis il va réussir à l'éteindre, donc ce sera tout bénef, quoi.
S'il veut gagner des voix, c'est... Là, il devrait se dire pourquoi il y a eu ça. C'est pas... Oh non, ils ont fait ça, donc on les arrête. Il faut absolument... Il faut leur dire, voilà, il faut essayer d'expliquer pourquoi. et là essayer d'interviewer des jeunes, essayer de montrer des jeunes, de faire des reportages sur eux, pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, aller dans les cités, pas qu'interviewer le jeune, le monsieur, le vieux passant qui se cache derrière ses rideaux quand il y a des émeutes et qui lui il a qu'une seule idée, c'est que c'est les Arabes et les Noirs qui font ça.
Mais ça change pas. Je pense que l'État veut pas faire d'efforts. Ils nous ont mis là et c'est bon.
On a côtoyé la galère, le froid, la faim et la soif. Jamais la chance nous a pris dans ses bras. On a connu que la poisse, ma foi, dans la banlieue nord. On vit pas comme on veut, traité comme des parias. Ici on vit plutôt comme on peut. Mon vieux, vas-y viens t'en rendre compte par toi-même. Comment les familles peinent toutes pour sortir de la merde. Mère levée pour aller bosser avant le premier train. Père RMiste malgré lui, toujours dans le pétrin. Au quotidien, 8 factures dans la boîte aux lettres. Plus de fractures entre pauvres, riches, élèves et maîtres. Sourire aux lèvres, la nuit est bossée devant ta porte. Même si tu crois fort, frère c'est pas une bonne nouvelle qu'on t'apporte, peu importe, là on vit à 10 dans un F3. Souvent y'a pas d'eau chaude, l'hiver on se lave quand même à l'eau froide. C'est juste une question d'habitude, comme de voir ces gosses stylés sur des tas, sachant qu'ils ont des tonnes de voir. Dur d'y croire, chaque jour qui passe une voiture crame. Un pote qui canne, des shit écoulé au kilogramme. Mais le drame, soumet le drame. Un homme qui bat sa femme ou vice versa. Ici c'est chacun sa flamme.
On vit comme on peut, on n'y peut rien. C'est ma banlieue mon vieux. Rien à faire à tout, c'est ténébreux, c'est dernier. Mais sache que ici y'a des hauts mais surtout des bas. Un monde de néa, quand on paiera c'est pas un débat. On vit comme on peut, on n'y peut rien. C'est ma banlieue mon vieux. Rien à faire à tout, c'est ténébreux, c'est dernier. Mais sache que ici y'a des hauts mais surtout des bas. Un monde de néa, quand on paiera c'est pas un débat.
Si on vit comme on peut, balancé entre joie et peine. Là où la poisse nous rattrape, même quand on se croit en paix. À l'étroit on est parqué dans des tessis flingués. Je le précise d'emblée, c'est dur de vivre paisible semblé. Et se concentrer sur les études dans le droit. Des familles nombreuses, sous le poids des dettes, du foyer, tout est fragile mon vieux. Y'a rien de honteux, ici on partage tout. Le fringue ou leur pas jusqu'à la dernière base à tous. Quand y'a pas de flou, le front de sang c'est secours catholique. Ou Lidl, où je fais les secours avec mes acolytes. Diabolique pour les flics fâchés qui nous contrôlent aux faciès, font chier. En bas de la tête, pendant que nos roms font la sieste. Mon assiette n'a pas toujours été pleine par ici. Certains soirs, on tapait des petits déj au parasite. C'est la dèche, on trouve le frigo, il réclame à manger. Au moins les rails, les blattes, on met t-shirts à ronger. L'absence de machine à laver m'a fait un grave traumatisme. Pendant que les autres jouent au foot, j'battais le lave-o-matique. Avec ma clique de misérable, on défonçait la cantine. Les bons scolaires, on transpire pour avoir des plans tranquilles. Et tant pis pour le luxe chez nous, on achète tout qu'on casse. La télé ou une carcasse de voiture à la casse. Dans l'impasse, sont les salons qu'on perd nos aides. Et même mes petits frères n'ont plus le courage d'écrire au Père Noël.
Notre seule arme, c'est l'extincteur, a déclaré le maire de Grigny, Claude Vasquez, et un appel aux habitants de Grigny a été lancé pour que par petits groupes, employés communaux et bénévoles se veillent dans un certain nombre de lieux sensibles de la ville. Et là, par exemple, on est passé près de l'école une école maternelle de la Belle au Bois Dormant. On n'est pas passé près, on est allé voir. Et ben c'est vrai qu'il y a deux classes qui ont été brûlées dans la nuit de dimanche. Et le lendemain, les habitants sont descendus, ont nettoyé cette école, les petites chaises, les petites tables, etc. Et ceux et celles qui font la veille ce soir-là, qui sont les éducatrices, qui sont encore toutes bouleversées, comprennent pas du tout comment et pourquoi on a pu s'en prendre à l'école où elle travaille. On va retrouver Laurent Mucchielli qui est sociologue, j'en parlais en commençant, qui est l'auteur de un certain bruit l'an passé qui s'appelle Le scandale des tournantes, et puis un livre précédent sur violence et insécurité, fantasme et réalité. On l'avait reçu il y a quelques années, en 2002 je crois, à l'occasion de la sortie de ce bouquin. Et on était déjà évidemment dans ces sujets et dans ces problèmes, et donc on retrouve Laurent Mucchielli aujourd'hui. Vous allez voir qu'entre ce qui vient d'être dit, ces paroles dans ce gymnase, on va retrouver d'autres habitants de Grigny ensuite. Il y a un écho. Alors il y a les paroles de ceux qui vivent à Grigny, et puis il y a les paroles aussi du sociologue qui fait partie de ces sociologues qui sont tout à fait navrés d'avoir raison. Et je suis content de vous retrouver à nouveau. On s'était vu il y a quelques années sur des sujets un peu analogues. C'était déjà des histoires de violence dans les quartiers. On aurait pu se rencontrer il y a 25 ans, parce que ça fait 25 ans au moins que ça dure, et même plus si on veut se donner des grandes perspectives historiques. On s'était promis, en tout cas, dès que ça a pété là dans les banlieues, dans les quartiers, on a dit on va pas tout de suite les sociologues, on va pas consulter tout de suite les sociologues. On va déjà aller voir, on va déjà aller voir sur place. Donc on est allé à Clichy, à Montfermeil, à Bobigny, à Grigny, pour essayer de comprendre, de recueillir des témoignages, etc. Il faut bien avouer que c'est pas facile. Voilà pourquoi on se tourne vers un sociologue, pour essayer d'avoir votre regard à vous. Ce qui nous a frappé dans l'un des reportages, c'est à quel point Sarkozy est en train de gagner. C'est-à-dire que Sarkozy dit, on va vous débarrasser de ces racailles. Vous voulez qu'on vous débarrasse de ces racailles, on va s'en occuper. Et à qui s'adresse-t-il? Eh bien, à des braves gens. Hein, des supposés braves gens. Et ce qui nous a frappé, c'est ce clivage que quelqu'un comme Sarkozy essaye de mettre en place.
Ce qui est sûr, c'est que, de toute façon, pour dire les choses simplement, hein, le fond du discours de la droite, ça a toujours été l'ordre, la conservation de l'ordre. Et le discours de la gauche, avant, c'était la transformation des problèmes. Bon, aujourd'hui, moi, il y a une espèce d'homogénéité un peu des discours. C'est devenu l'ordre soft. Bon. C'est pour ça qu'on a fait ce papier qui est engagé, quoi, pour dire un peu, mais putain, qui est capable d'entendre autre chose que le désordre là-dedans, quoi. Je veux dire, le discours typique du rétablissement de l'ordre consiste évidemment à distinguer les braves gens qui ne demandent que la paix, qui eux sont gentils, etc., et puis les méchants, les violents, les perturbateurs, etc., qu'on renvoie à la différence. Ce qui est dramatique, moi, je trouve, dans ce discours-là, mais d'ailleurs, qui est quand même dans le message global, je trouve, dans la façon dont globalement le gouvernement gère ça, parce que c'est le couvre-feu, c'est aussi quand même des choses qui sont extrêmement, extrêmement fortes. Ce qui est dramatique, c'est vraiment l'incapacité à prendre au sérieux, à entendre ce qui peut... Alors même, évidemment, cette jeunesse s'exprime pas avec des mots, des revendications, des tracts politiques, etc. Précisément, elle a pas d'éducation politique, elle a pas de gens pour les représenter, on lui a jamais appris à exprimer les choses autrement. Néanmoins, elle dit quelque chose. C'est l'incapacité à entendre, ça. Moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est ce qui me désespère le plus, je veux dire. Je crois qu'on prend pas très bien la mesure des choses, qu'on n'a pas les mots même pour qualifier la situation, qu'on perçoit pas à quel point elle est grave, qu'on se rend pas compte que depuis une quinzaine d'années, la situation des quartiers classés zones urbaines sensibles, pour prendre l'expression officielle de l'INSEE, a empiré, hein, malgré tous les différents plans, qu'on sait pas pourquoi, qu'on veut pas analyser pourquoi, qu'on n'évalue pas les politiques publiques. Alors du coup, tantôt on les balaye d'un revers de la main en disant ça sert à rien, tantôt on relance encore une fois la politique de la ville, on débloque je sais pas combien de millions. Bon, on a l'impression que voilà, on n'est même plus capable aujourd'hui de mettre des mots, d'analyser froidement les choses. Et puis on a toujours aussi notre bon vieux mythe républicain qui continue à nous faire croire que de toute façon nous sommes libres et égaux dans une république et qu'on respecte tout le monde. Bon, alors que ces jeunes crient l'inverse. Il crie la République, on n'y croit pas, l'égalité, on n'y croit pas, l'école, on la brûle. Ben oui, l'école pour nous, c'est pas un lieu de promotion, c'est le lieu de notre échec. C'est notre première humiliation dans la vie. Il crie ça. Effectivement, c'est pas construit politiquement, ni idéologiquement. C'est bien pour ça d'ailleurs que les théories du complot du ministère de l'Intérieur, c'est du pipeau, passez-moi l'expression, hein, de penser qu'ils sont organisés, structurés, ou qu'il y a je ne sais quoi, quelle pensée organisée derrière, rien de tout ça. Effectivement, ils sont pas éduqués politiquement, mais et pour cause. Et pour cause, les quartiers populaires sont des déserts politiques. Il n'y a plus de militants politiques, il n'y a plus de militants syndicaux. C'est des quartiers où il y a les plus fortes taux d'abstention, où il y a les plus forts taux de jeunes non inscrits sur la liste électorale. C'est des quartiers qui sont silencieux. Bon. Alors quand on est jeune, qu'on est révolté, qu'on a la colère, etc., qu'on n'a pas de mots pour le dire, qu'on n'a jamais appris à faire une revendication, qu'on conçoit d'ailleurs ou qu'on perçoit le pouvoir comme un espèce de bloc, on ne sait pas trop en fait qui fait qui, etc. Quand la colère sous le coup de l'émotion se libère et s'exprime, s'exprime comme ça, de manière un peu directe, un peu sauvage, c'est fatal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière des ressentis, des idées, des choses à prendre au sérieux. Ça veut dire qu'effectivement, ils savent pas les exprimer. Mais moi, j'ai déjà rencontré ça et j'avais signalé ça et d'une certaine manière, expliqué que ces choses-là empiraient et qu'il fallait, il était temps de s'en préoccuper. Entre autres, en faisant un travail il y a quelques années sur les chansons de rap. En essayant de dépasser l'image commerciale de ces types qui cherchent qu'à avoir quelques belles nanas dans une voiture, bon, il y a un aspect comme ça commercial du rap depuis qu'il est consacré. Moi, j'étais revenu sur les origines du rap, sur le première moitié des années 90, hein, avant que ça devienne un phénomène commercial, en essayant de prendre au sérieux ce que disaient les gens, en analysant, en étude de texte, en qu'est-ce qui sortait. Et c'était fascinant de voir comment il y avait là une tentative de construction, même politique, d'un message. Et ce qui était fascinant, en plus, c'est que ce message, lorsqu'on l'interroge, il s'exprime avec, je dirais, avec les mots de la République. C'est-à-dire que la revendication fondamentale de ces jeunes, c'était République, liberté, égalité, fraternité. Simplement, ils disaient, on entend vos discours, où sont vos pratiques? En gros, c'est ça qu'ils disent. Donc, en réalité, leurs revendications sont les exigences mêmes, les principes mêmes de la République. Ils ne demandent pas autre chose. Donc, c'est très, moi, je pense qu'ils sont, notre société continue à socialiser politiquement dans notre moule républicain. Simplement, il y a des gens qui viennent dire, mais il y a vos discours et vos pratiques n'ont rien à voir. Voilà. Mmh. Et c'est ce message-là qu'il faudrait que nos dirigeants politiques entendent, plutôt que de se réassurer en permanence, de manière incantatoire, en réclamant la République, l'ordre dans la République. Mais la République n'est pas menacée par des gens qui la comprendraient pas, qui voudraient la renverser, la subvertir ou je ne sais quoi. Elle est menacée par des gens qui disent, c'est du pipeau, c'est pas la réalité. On a le sentiment de vivre dans un ghetto. On a le sentiment qu'il y a deux mondes. Le monde dans lequel nous, on est enfermés, sans avenir, et puis le monde de ceux qui ont réussi. Comment se fait-il que personne n'arrive à entendre ça et à le prendre au sérieux dans l'espace politique?
Mais l'une des réponses à ça, c'est de dire, mais dans vos quartiers, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui s'en sortent, il y a des braves gens qui travaillent honnêtement, dont vous brûlez les voitures, dont vous brûlez les équipements, et vous êtes de la racaille.
Oui, bah oui. Évidemment que dans les quartiers, il n'y a pas que des gens, il n'y a pas 100% de chômeurs, etc.
Hein, enfin, à Clichy-sous-Bois, oui, c'est dans la jeunesse, c'est 40%, hein, 40 presque 50%.
Oui,
par
oui, c'est ce que j'ai rappelé, c'est-à-dire que on discute tous là du taux de chômage à 9,2%, machin, mais non, on prend les jeunes sortis de l'école sans diplôme avec un CAP et de père ouvrier, on est à 50%. Si on pouvait mesurer la discrimination au faciès ou à l'adresse, on serait au-delà de 50%. Donc, il y a aucune commune mesure entre ce dont on discute dans le débat public et le type de politique qu'on met en œuvre. Et en réalité, même le gouvernement Jospin, par exemple, s'était planté là-dessus. Les emplois jeunes, c'était très bien, mais ça s'adressait aux gens diplômés. Quid des jeunes sans diplôme? Ceux-là, ils sont toujours exactement dans la même situation terrible. Donc voilà, alors c'est pas un bloc, hein, évidemment, la banlieue. Mais il y a là une jeunesse qui, très clairement, se conçoit comme sans avenir. Alors lorsqu'on vient lui dire, on a reconstruit un joli gymnase, etc., elle a fini, aujourd'hui, elle prend ça comme de la charité. Ah. Une des pires insultes qu'on peut faire à un jeune, au-delà des aspects virilité, etc., c'est le traité de clochard. Quelque part, ils ont ce sentiment-là, cette humiliation-là. C'est de la charité qu'on vient leur donner en plus, etc. Eux, ça ne touche pas. C'est pour ça aussi que les politiques de la ville ont leurs limites. C'est que les politiques de la ville ne touchent pas ce qui est le cœur du problème, à savoir l'école, l'emploi, par ailleurs les relations à la police, et le fait que ils ont par ailleurs un énorme besoin de reconnaissance symbolique dans la société. Et qu'une société française, au nom de cette culture républicaine qui nous uniformise tous, a du mal à reconnaître le fait qu'elle est multiraciale au sens de la couleur de peau, et par ailleurs qu'elle est en partie multiculturelle. On n'arrive pas à le reconnaître, à le poser dans le débat public, ça. Et dès qu'il y a l'ombre d'une affirmation identitaire, religieuse, etc., on crie au communautarisme et à la République menacée. Il y a là vraiment une espèce de blocage. Hein. Notre culture républicaine se retourne contre nous-mêmes, en quelque sorte, nous empêche d'ouvrir les yeux, de reconnaître notre diversité et d'être capable de construire un avenir commun avec nos différences.
Oui, non, nous on a suivi, en fait on a suivi les comités citoyens ce soir. Mmh. Et moi je voulais savoir un peu ce que vous pensiez de cette démarche là, c'est surtout là-dessus. Hein.
Ah, les associations là qui prennent leur voiture, qui remplacent la police, c'est ça là?
On est où là? On est place aux pigeons, c'est ça tu disais?
Place de la Traîne.
Place de la Traîne.
Ah d'accord, c'est tout. Parce qu'il y a des grosses statues de pigeons juste à l'extérieur du salon de thé où on est. Vous êtes qui vous un peu tous là ce soir?
Bah moi c'est Samy. Chanté, chauffeur de taxi. J'habite dans la grande bande depuis 25 ans. Je suis contre ces émeutes qui s'est passé. Ces émeutes ont lieu à cause de certains discours de monsieur le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il faut nettoyer les banlieues à coups de Karcher et il faut débarrasser de toute cette racaille. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. On n'est pas tous des racailles. On n'a pas tous les moyens d'habiter à Neuilly comme monsieur Sarkozy. Et voilà.
Karim, ex-agent Air France, problème de badge aéroportuaire, alors on se retrouve dans le chômage. Alors
On est né ici, on est père de famille.
Vous avez quel âge, là, vous trois?
Moi, j'ai 29 ans.
Et vous êtes tous déjà père de famille?
Ouais.
Oui, tous.
Pas encore, je suis à la recherche d'une nouvelle star. Je l'ai pas trouvé, à cause de Sarkozy, alors on peut plus sortir.
On parlait de ce qui s'est passé en 94 ici, vous avez connu ça tous? Alors
oui, on a tous connu ça, oui.
Qu'est-ce qui change entre 94 et maintenant?
Bah rien, c'est toujours un même problème. Le taux de chômage est très élevé. Il a jamais baissé. Il y a plus de 60% de taux de chômage à peu près à Grigny. C'est tout. Les aides, rien n'a changé. Rien n'a changé.
Grigny, c'est toujours la même chose. Le gouvernement, il donne des subventions, construit des ronds-points, des bornes, des bancs.
L'argent qui est fourni, que le conseil général donne à la mairie de Grigny, il devrait mieux s'en servir. Qui puisse nous aider à ouvrir des sociétés ou d'avoir des projets ou nous aider à avoir certaines formations. Et le fait qu'il y a autant de contrôle à Grigny, ça peut que énerver les gens. Ça sert à rien de contrôler les jeunes de Grigny à Grigny. On habite ici, je vois pas où on peut sortir, on est tous français.
J'ai pas vu la télé hier, reportage 8 à 8. Il y en a qui crient à droite à gauche, ils leur disent, l'agent de police toujours, il leur dit, est-ce que tu veux faire un tour dans le transfo comme tes amis? Tu veux aller brûler? Wesh, il a un problème. Ça, ouais. C'est des phrases qui appellent à la violence, à la haine.
Pour baisser la délinquance, c'est très très facile.
En occupant les jeunes,
il faut de l'emploi.
Faut faire attention. Il faut de l'emploi. Aux jeunes. Les plus jeunes, on en parle.
Il faut de l'emploi. Les conseillers d'orientation, ils orientent les jeunes vers une sortie, vers un mur.
Voilà, alors on est dans un café, enfin non, c'est pas un café, c'est un salon de thé qui vient d'ouvrir à Grigny. Ben oui, on ouvre des salons de thé à Grigny. Le Meknès, et c'est une rencontre avec des gens qui sont en train de déguster un thé là ce soir-là au cours de cette ronde de nuit dans Grigny. Et on voit que quand même, oui, on a parlé d'une misère politique, nous a dit le maire de Grigny, Claude Vasquez, qu'il désolait dans cette affaire, c'est une misère politique. Oui, dans l'expression de ces violentes, ces espèces de côté, une émeute, ces émeutes un peu désespérées, qui ont un caractère un peu désespéré, violent, indéniablement, on voit aussi que les habitants, ils sont pas si dépolitisés que ça, ils ont leurs propres expériences, leurs propres vécus, ils voient, comme tout le monde, la télé, ils ont des familles, des boulots, des pas boulots, et voilà, on se réfère à ces, et finalement, bon, ça fait des gens quand même qui sont pas si étranges, et ni étrangers, que ça. On va retrouver Laurent Mucchielli, qui lui, c'est un autre regard, bien évidemment, c'est celui du sociologue, mais on va voir qu'entre ce que disent ceux qui vivent là et celui, un sociologue comme Mucchielli, qui observe, lui c'est un observateur engagé, bien évidemment, en l'occurrence, il y a des coïncidences. Laurent Mucchielli. Vous avez évoqué rapidement l'islam. On avait construit un fantasme dans lequel c'était les méchants islamistes, des méchants barbus qui manœuvraient ces banlieues et qui étaient derrière. On a l'impression que pas du tout, ils n'y sont pour rien.
Mais oui, c'est quand même hallucinant, quoi, la persistance de ces fantasmes. La réalité, c'est le contraire. La réalité, moi, dans les deux ou trois quartiers où j'ai des informations de première main, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les jeunes engagés dans une réflexion spirituelle qui fréquentent tout le temps la mosquée, etc., c'est ceux qui essayent de faire rentrer les petits chez eux. Ils leur disent pas, vas-y, ouais, vas-y, c'est bien, prends plus d'essence et va flamber les voitures. Ils leur disent, rentre chez toi, regarde, t'as 14 ans, tu veux déjà te repérer par la justice, tu veux risquer de la prison, rentre chez toi. Ton avenir est déjà suffisamment noir, ne va pas en plus te le gâcher en rentrant tout de suite dans la population des gens qui sont sous main de justice. Bon. Donc, c'est l'inverse, voilà. Encore une fois, dès qu'on prend toutes les affirmations, aussi maladroites, mal construites soient-elles, toutes les affirmations identitaires de cette jeunesse, on le prend automatiquement comme une menace, un communautarisme, une violence ou je ne sais quoi. Alors que, au fond de tout ça, au fond de ce qui se passe aujourd'hui, au fond de l'histoire de la revendication identitaire, au fond de l'islam, etc., il y a fondamentalement un besoin de reconnaissance et de dignité exprimé par cette population.
Enfin, le mot respect.
D'où le mot respect. Bien sûr, central. C'est ça que ça veut dire, reconnaissance, dignité. Ce serait quand même pas très compliqué d'envoyer ce message-là à cette jeunesse. On a l'impression qu'il y a, à droite comme à gauche, il y a personne pour comprendre ça.
Comment vous expliquez effectivement que ces violences, que ces émeutes, comme on voudra, ne trouvent pas leur expression politique, leur relais politique?
précisément parce qu'il n'y a plus de médiation politique. Il y a, pour prendre pour faire un petit plongeon dans l'histoire, il y a 40 ou 50 ans, dans les quartiers populaires, quand on construisait les grands ensembles avec une population qui était soit d'autres vagues d'immigration, mais également l'immigration interne, l'exode rural, des jeunes qui venaient de leur campagne, jeunes ouvriers, etc. Avec des phénomènes de délinquance qu'on connaissait bien, puisqu'on a même eu le grand mouvement de panique des blousons noirs.
Bon,
ce qui était frappant à l'époque, c'est que quand les journalistes, les enquêteurs débarquaient pour interroger ces jeunes ouvriers ou apprentis qui faisaient le coup de poing, l'alcool, les viols collectifs et tout ça le samedi soir, ils étaient frappés du degré zéro également de construction politique. Ils étaient, mais pourquoi vous exprimez quoi, des types qui arrivaient à peine à parler en face. Bon, mais la différence, c'est que à l'époque, il y avait dans les quartiers les mouvements ouvriers, les militants politiques, les syndicalistes, les associations. Il y avait d'autres religieux, catholiques ceux-là.
Tout à fait. Tout
catholiques ceux-là. Oui. On criait pas au communautarisme, évidemment. Hein. Mais tous ces gens-là étaient là à la fois pour aider les populations, soutenir les parents, hein, qui n'étaient pas seuls. C'est ça aussi la différence avec aujourd'hui. Mmh, les parents sont tout seuls à gérer leurs gamins. Il y avait d'autres adultes à l'époque. Ils faisaient une forme d'éducation politique de cette jeunesse. Ils leur apprenaient aussi à penser le monde, à construire des revendications. Bon, aujourd'hui, c'est un désert politique de ce point de vue-là. Alors, faut pas s'étonner du coup que, par exemple, la religion prenne plus d'importance. Évidemment, ça vient aussi remplir à la fois un aspect d'aide sociale et un aspect de construction. Plus encore une fois, ce besoin fondamental de dignité, mais que la politique donnait aussi. Mais les conflits étaient également extrêmement forts. Enfin, faut se souvenir de la dureté dans le monde ouvrier, les 50, 60, les conflits très très forts. Simplement, on savait, on avait, et les idées étaient aussi simplistes, mais on savait qui était victime, qui était l'oppresseur, on se battait contre ceci, les bourgeois, les patrons, que sais-je. À tort ou à raison d'ailleurs, c'est pas le problème. Hein. Mais il y avait là une construction, il y avait une série de médiateurs pour l'opérer. Aujourd'hui, ils ont disparu.
C'est-à-dire que tout ça se passait sous un... dans des conditions de... C'était les 30 Glorieuses, c'était le plein emploi, c'était une croissance très importante que le pays connaissait, quoi.
Ah ben, en plus de ça, on avait effectivement l'espoir dans le temps.
Oui, on avait un futur.
On avait en plus l'idée d'un progrès collectif, quelque part. On savait bien qu'il y avait des écarts très forts, des inégalités, mais quelque part, tout le monde en profitait.
Dans ce papier, vous évoquez la figure de Gavroche et vous évoquez aussi les Black Panthers. Vous dites que Gavroche aurait pu rester seulement un délinquant, on aurait pu être un délinquant, et que les Black Panthers n'étaient pas seulement des terroristes.
Mais oui, ça c'est pour répondre aussi à cette idée que c'est tous des délinquants, etc. Bien sûr que dans le contexte de défoulement, d'émeute, etc., on trouve aussi tous les petits délinquants du coin qui s'en donnent à cœur joie, bien sûr, qui sont trop contents de pouvoir anonymement, sans trop de risque d'être pris, se venger de la police, machin, etc. Bien sûr, mais en même temps, on trouve pas seulement eux. Bon, donc ce qu'on a voulu rappeler là, c'est que de toute façon, il faut cesser de penser que les jeunes qui commettent des actes de délinquance sont des gens différents des autres, qui n'ont aucune moralité, qui sont socialisés avec comme s'ils étaient en dehors du monde social, une espèce d'humanité différente.
Les eux et les nous.
Mais
quoi.
Oui, l'espèce
d'un côté des flics.
Et ben voilà, une espèce d'humanité différente. Ben non, c'est des gens qui, à un moment donné, ont bifurqué dans leur parcours. Ça les empêche pas d'avoir des idées, d'avoir des repères moraux, etc., etc. Hein, il faut à tout prix sortir de ces idées simplistes, de ces idées grotesques qui nous ramènent au 19e siècle où on pensait que les délinquants, les criminels étaient des gens qui étaient biologiquement constitués différemment, qui manquaient quelque chose, une case dans le cerveau ou je ne sais quoi. Non, il faut absolument sortir de ça.
Les auditeurs qui écoutent en ce moment disent, bah oui, c'est là-bas, si j'y suis, ils ont trouvé le sociologue qui fait dans l'excuse sociologique, le sociologue laxiste, ça nous étonne pas.
Si on veut pas entendre quelle est la nature et quelle est la profondeur des problèmes sociaux, effectivement, on attend, on bouge pas, on se contente de dire, bon, bah, il faut que la police, la gendarmerie et éventuellement l'armée matent tous ces jeunes troubleurs de l'ordre public, et puis ok. Bon, le seul problème, c'est que vous verrez, dans quelques semaines, dans quelques mois, au prochain drame, tout répétera.
Et ça dure depuis 25 ans.
Et ça dure depuis un moment, ouais.
Alors, retour au Meknès, à Grigny, ce soir-là, cette nuit-là, il y a deux nuits, avec ceux qui font la ronde de nuit. On s'est arrêté un instant avec Olivia dans cet endroit tout à fait sympathique. Et pour discuter avec ceux qui sont là, les grands frères, et on va voir que à Grigny, on n'est pas aussi, peut-être pas aussi dépolitisé qu'on veut bien le dire.
Même des policiers, le policier qui habite à Nice, vous rencontrez, il vient jusqu'ici. Policier, il a rien à voir, il se mange des cailloux dans la tête à cause d'une phrase du Premier ministre. Le policier aussi, il est énervé, il se dit dans sa tête, pourquoi je suis là, moi.
Heureusement qu'il y a la police, s'il n'y aurait pas la police, ce serait une anarchie, tout le monde ferait ce qu'il veut. Heureusement qu'il y a la police, mais il y a certains,
qu'ils ont trop vu de films, qu'ils ont l'impression quand ils mettent leur uniforme, c'est des intouchables. Je trouve ça qu'il y a une injustice. Vous avez vu le maire de Paris, est-ce qu'il est parti en prison parce qu'il a fait détourner plein d'appartements? Non. Il y a du potentiel, il y a des gens, regardez, Tariq, Kale Meknes. Et ben lui,
voilà, il essaie de s'en sortir, il s'en sort bien.
Il s'en sort.
Et grâce à nous, on est ses clients, on veut l'aider.
Sans aucune aide de la mairie.
Ça fait combien de temps que vous l'avez monté?
Deux semaines. Deux semaines que je viens d'ouvrir. J'ai 22 ans.
Alors, il y a du potentiel. Il y a du potentiel.
Depuis 10 jours, qui aide à ce que ça se calme un peu ici?
Nous. La colère, ça se passe pas comme ça. C'est il faut parler, il faut, comme
faut
vous dites,
dialoguer,
il faut aller dans des réunions, il faut s'exprimer. C'est pas en brûlant des voitures, en cassant, qu'on pourra s'exprimer. Ça ne sert à rien. Ça va mettre une image négative à Grigny. Il faut y vivre. Il faut pas voir Grigny comme si c'était.
Vous venez l'été, ça. Quand il y a de la verdure, les enfants ils jouent, les mamans sénégalaises elles vous donnent des beignets. On goûte des plats à tout le monde, c'est la convivialité.
Quartier populaire, c'est vraiment.
Il y a une nouvelle mosquée qui va se faire. Bah, tant mieux pour nous, et Inch'Allah qu'elle se fait. Mais on est content.
Mais ça n'a rien à voir de religieux, tout ce qui se passe. Hein.
On n'est pas à la guerre des croisades.
Il faut bien mettre l'accent dessus.
C'est ça que je vous dis.
Je mets bien l'accent dessus, ça n'a rien à voir de religieux. Il faut arrêter de mélanger l'islam à tout ça. Ça n'a rien à voir. À la prise du vendredi, ils ont parlé au papa. On condamnant ces violences. En disant qu'il faut, si on a des enfants, il faut pas les laisser sortir dehors tard pour pas que ça se passe. Dites-vous c'est bien. Pas parce qu'il y a une mosquée à Clichy-sous-Bois, c'est à Clichy-sous-Bois qu'il y a eu ça, non? Ouais. Qui s'est fait gazer. Et j'ai entendu une ministre de l'Intérieur disant que lacrymogène, elle appartient à la police, mais c'est pas la police qui l'a envoyé. Ils savent pas c'est qui. Non, il y a vraiment un problème. Bon, après, il faut condamner ces gens-là. On leur demande quoi? Que des excuses. Ça se fait pas. Aujourd'hui, on aurait fait ça dans une synagogue ou une église. Ça serait passé autrement. Grigny, c'est un volcan qui est calme.
Voilà.
C'est un volcan qui est calme.
Non, regardez, mais je pense que Grigny, c'est
ça
plus
a pété
touché
partout
parce
en France.
Même dans le Calvados.
Dans le Calvados, à Lille, à Bordeaux, partout en France, à Nice, dans tous les quartiers, dans tout partout en France, il y en a ras-le-bol. Non, mais vous voulez nous coucher. On a plein de choses à dire, mais après, vous allez faire un montage. C'est normal.
Voilà à quoi cette chicha? Elle est à la pomme?
En église.
En église. Ouais.
Merci à tous, c'était un reportage d'Olivia Gesbert. Merci à Laurent Mucchielli, au personnel de la mairie de Grigny, à la directrice de l'école du Minotaure qui, en écoutant ce qui vient d'être dit, se dit peut-être qu'elle n'a pas entièrement perdu son temps, ni le temps des enseignants de Grigny. Merci à Farès, à Tariq pour son très bon thé à l'amande, c'est un message d'Olivia Gesbert, à savourer dans son salon de thé le Meknès et à ses premiers clients. Le Meknès à Grigny, c'est 6 places de la Treille, 91 350 Grigny. Vous pouvez venir de la part de là-bas si j'y suis. Merci à Antoine Chao pour sa prise de son et à Antoine Germa. Tout ça, c'est des messages personnels d'Olivia Gesbert. Vous retrouverez Laurent Mucchielli dans Parenthèse, une excellente émission de notre excellente consoeur Laurence Lurès, samedi 12 novembre de 8h45 à 9h sur France Inter, bouquin de Laurent Mucchielli, Le scandale des tournantes, dérive médiatique, contre-enquête sociologique, et puis violence et insécurité, fantasme et réalité dans le débat français. Voilà, c'était. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, les repères des amis de là-bas, si j'y suis, justement. Et ben, ce soir à 20h30, ce sera au bateau ivre à Locmaria Plage sur l'île de Groix, où Rowena et Raymond attendent les amis de là-bas si j'y suis. Et puis ce sera aussi à Bordeaux, au Samovar, 18 rue Camille Sauvageau, à partir de 19h30, 20h, voilà. On vous attend là, amis de là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Stéphane Devernay et Patrick Henry. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello. Le répondeur c'est Christophe Imbert qui vous écoute au 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission c'est Daniel. Mermet@radiofrance.com pub.